C'est une association dynamique et très utile qui fête ses 50 ans d'activité vendredi à Château-Arnoux.
À la salle des fêtes, très précisément, de 14 à 19h, une entrée entièrement libre, l'association pour adultes et jeunes handicapés fêtera ses 50 ans. J'ai le plaisir d'accueillir le président de la PAJIH 04, notre ami Michel Pomme. Bonjour Michel.
Bonjour François, merci de nous recevoir.
C'est normal de parler de cette association ô combien utile. On peut rappeler les missions tout d'abord de l'APAJIH 04.
Oui, j'ai envie de commencer en disant qu'en fin de compte, c'est une association laïque, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Et qu'ensuite, c'est une association qui ne se place pas dans le champ de la charité. En fin de compte, elle se place dans le champ de la justice et de l'égalité des droits pour tous. Ce qu'on souhaite, c'est que tous les jeunes, et jeunes et même adultes aussi, en situation de handicap, aient les mêmes droits que nous. Ce sont des citoyens à part entière et on doit les respecter en tant que tels.
Et quelles sont donc les missions de l'APAJIH ?
Donc l'APAJIH, c'est une association d'abord nationale, en fin de compte, hein, qui doit tourner autour de 15 000 salariés, en fin de compte, au niveau national. Donc, ce qui fait que nous touchons tous les champs de handicap. L'APAJIH a pour caractéristique de ne pas avoir un créneau particulier. Elle accueille tous les types de handicap. Ce qui fait qu'à travers la France, on va trouver une multitude d'établissements qui sont nés en fonction des caractéristiques locales. Donc, si je reviens à nos départements, les Alpes de Haute-Provence, nous travaillons surtout dans le domaine de l'enfance. Tout ce qui est enfance, c'est-à-dire on va de 6 ans à 20 ans. Typiquement. Pourquoi ce créneau? Ben parce qu'en fin de compte, c'est le seul créneau dans lequel on arrive à avoir des subventions, des crédits de la part de l'État.
Il y a une autre association aussi importante dans ce cadre, c'est l'ADAPEI.
L'ADAPEI aussi, qui travaille dans le même champ et qui n'est pas du tout concurrentiel avec nous. On travaille en parfaite harmonie tous les deux. Surtout qu'en fin de compte, nous essayons à nous deux vraiment de couvrir toutes les pathologies. Et en fin de compte, alors que si on revient un petit peu aux origines, en 1962-63, effectivement, l'ADAS avait pris conscience qu'il y avait effectivement des problèmes, qu'on avait beaucoup de jeunes qui, à l'époque, étaient considérés comme des débiles. Ils étaient classés, effectivement, il y avait les débiles légers, les débiles profonds, et qu'en fin de compte...
C'était la terminologie de l'époque.
C'était la terminologie de l'époque. Ah ben, ce sont des débiles. Hein, on peut rien en faire, on peut rien en tirer, donc il n'était pas question de les scolariser. Alors ça, effectivement, c'est une prise de conscience qu'avaient à l'époque chez nous tous les enseignants. Les instituts de l'époque, les purs et durs, on dit, en fin de compte, ne supportaient plus ça. C'était, pour eux, c'était pas admissible de voir des centaines, des milliers d'enfants rester au bord du chemin.
C'était en 1963.
Voilà, exactement. Et à ce niveau-là, les enseignants aussi ont eu le soutien de pas mal de gens de la société civile. Et pour nous en particulier, le docteur Krause, qui a été le premier président de l'APAJIH 04 et à qui nous devons bien sûr notre existence, en fin de compte. C'était un homme formidable.
Le docteur Jean Krause, qui était fondateur. Jean Krause, donc
fondateur, effectivement.
Avec plusieurs personnalités, notamment, et puis qui prendront aussi la direction et la présidence de cette association pendant des années, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça représente combien de salariés, par exemple, la PAJIH ?
Alors, actuellement, enfin, je crois qu'on n'en a pas conscience dans le département, en fin de compte. Hein. Nous avons de l'ordre de 260 salariés dans l'établissement, de toute profession confondue, en fin de compte.
Et bon, qui aide combien de familles, est-ce que vous le savez aussi?
Alors, nous avons, enfin, les familles, c'est dur à dire, mais enfin, nous accompagnons à peu près 320 enfants. En fin de compte, les enfants que nous accueillons nous sont envoyés par la MDPH. C'est quand même la maison. Ah oui.
Alors, allons-y. Tout à l'heure, vous avez dit la DAS.
Je vois votre regard.
Alors, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. C'était comme ça qu'on appelait les services sociaux jusqu'à il y a pas très très longtemps d'ailleurs. Et puis la MDPH, c'est les maisons départementales
du handicap
des personnes handicapées.
Handicapées
qui dépendent du Conseil général.
Voilà, exactement, et qui a été créé en 2005. Alors, 2005, c'est un virage important pour nous. Parce qu'en fin de compte, on a eu une loi. Une loi qui imposait certaines choses. Qui imposait une scolarisation des enfants. Qui impose la mise en accessibilité des locaux publics et privés. Voilà, c'est la grande avancée, elle est là.
On en parle beaucoup actuellement, puisqu'il y a une adaptation de cette loi qui a été faite, et ça n'est pas tout à fait du goût de nos amis de l'AFP, des APF, par exemple, l'Association des paralysés de France, oui. Qui estime qu'on a assez reculé, et maintenant il faudrait absolument décider de faire quelque chose. C'est un autre dossier, mais qui touche à la fois à ce terme particulier et qui est votre activité, le handicap. Je vais revenir un petit peu sur les termes qui ont été utilisés pendant ces 50 années parce qu'ils sont révélateurs de l'évolution de notre société, même si ça n'est pas encore parfait. Vous l'avez dit, on considérait les jeunes handicapés, par exemple, comme des débiles à une époque. On disait arriérés aussi.
Oui,
on a entendu ça. Puis un petit peu plus tard, on a commencé à dire déficient.
Déficient, ouais.
Déjà, il y a une nuance qui apparaît. Inadapté, c'était pas mal. Aujourd'hui, on parle de personnes handicapées ou de personnes en situation de handicap. Tout ça, on le doit évidemment grâce au travail d'un secteur privé qui est un secteur associatif, notamment votre association.
Exactement, mais nous sommes à but non lucratif. Ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler, le suriner. On ne cherche pas à faire de bénéfices sur le dos des personnes en situation de handicap, en fin de compte. Hein.
Comment est-ce que vous êtes financé, monsieur?
Alors, nous sommes financés par l'Agence régionale de santé, en fin de compte, par les
pour
services.
Pour le service que vous faites
pour les services
auprès
qu'on
de la
fait,
population.
En fin de compte, auprès de la population, en fin de compte. Et puis, bon, on a aussi quand même un support d'éducation nationale. Parce qu'en fin de compte, ces jeunes que nous accueillons, qui ne sont pas dans le circuit classique des écoles de la République, en fin de compte, se tournent du côté des associations comme la nôtre. Et c'est ce qui nous a amené à créer différents types de structures. Nous avons créé, nous, un IME, Institut médico-éducatif.
Merci Michel.
En fin de compte, qui actuellement accueille 60 enfants, donc de 6 à 20 ans, qui suivent chez nous, avec l'aide d'enseignants et d'éducateurs spécialisés, une formation en enseignement général, et à partir de 16 ans, on les garde jusqu'à 20 ans en établissement professionnel. On essaie de leur construire un accès à certains métiers.
Il y a également des ateliers après, mais qui sont pris en charge par l'ADAPI, me semble-t-il, c'est ça?
Non, c'est autre chose. Non, l'ADAPI a aussi ses structures qui sont plus tournées vers les déficiences psychiques hein, pour eux. Hein. Alors effectivement, l'ADAPI a développé des ateliers, des établissements effectivement pour faire travailler ces jeunes adultes en fin de compte. Mais nous sommes restés dans le champ. Ben, c'est toujours pareil. On aimerait bien créer des ateliers, mais bon, le problème c'est le financement. C'est effectivement que l'État, que les services reconnaissent qu'il y a besoin d'accompagner ces jeunes, parce que là nous heurtons effectivement un gros problème. Arrivé à 20 ans, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? Certains sont déficients, mais déficients légers, peuvent très bien, bon, avec un accompagnement, peuvent très bien travailler en entreprise normale. Mais ça, il faut leur trouver du travail.
Il faut les accompagner, vous l'avez dit.
Il faut les accompagner.
Donc, effectivement, on ne peut pas envoyer une personne qui souffre de handicap essayer de chercher du travail comme une personne qui ne souffre pas de handicap. Il est évident qu'il y a des différences importantes et il y a une évolution aussi à avoir au niveau de la mentalité. Alors, je vais reprendre un petit peu le plan au fil des années, de ces 50 années passées à la PAJIH, avec par exemple, on a dit tout à l'heure, la mise en place du comité départemental de la PAJIH, c'était en 1963 avec la DAS 04. Puis, comme temps fort, moi j'ai noté l'ouverture de l'IME, vous en parlez à l'instant, c'était en 1976, à l'époque pour, je cite, 60 filles débiles moyennes ou débiles légères.
C'est
et
ça.
Je rappelle que c'était la terminologie de l'époque. L'année d'après, très important, l'agrément définitif de l'IME, qui est à Château-Arnoux, c'est bien
à
ça?
À Château-Arnoux, c'est ça, à Saint-Auban.
À Saint-Auban, avec, après, au fil des années, eh bien, d'autres temps forts, par exemple, en 93, la création de l'atelier protégé Loujas, qui est toujours en activité. 2005, la mise en place de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Et puis, 2009 aussi, il a une liaison intéressante avec l'association Les Lavandes, qui est implantée à Orpierre, qui était implantée à Orpierre dans les Hautes-Alpes, spécialisée dans les troubles des 10, vous savez, savez, ce sont les tout ce qui est dyslexie, dysphasie,
dysorthographique.
Voilà, merci Michel. Et vous avez signé, elle a signé cette association, un contrat d'affiliation à la page 04 en 2009. Où ça en est? Vous travaillez toujours avec l'association Les Lavandes?
Ah ben maintenant, Les Lavandes sont devenus un établissement de la PAJH.
Très bien.
Donc ils ont intégré effectivement les rangs de la page 04. La gestion est assurée par la PAJH 04.
Hein. Et ils sont toujours implantés hors pierre.
Ils sont toujours restés hors pierre. Ah oui, mais ça c'était effectivement.
Donc c'est bien, s'il y a un respect de la réalité. Quoi.
Effectivement, il faut dire que notre esprit à la page, c'est effectivement d'arriver à couvrir le territoire le plus possible, de ne pas faire de zones concentrées dans les villes. On veut effectivement garder une dynamique effectivement dans les lieux un petit peu reculés. C'est aussi ce qui a fait qu'on a mis en place un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile.
Le CESAD, c'est comme ça,
bravo,
que vous
voilà,
dites.
Exactement. qui accueille de l'ordre de 80 enfants. Alors là, ce service-là, ce sont des jeunes qui ont différentes déficiences, qui eux sont scolarisés dans les écoles du département, mais qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Donc on a des enseignants qui se déplacent, qui vont aller donner un coup de main ponctuel à un enfant, soit à l'école, soit chez eux, soit à domicile, si l'enfant a des difficultés de déplacement, nos personnels. Et là, il faut dire que c'est un très gros travail. Ça demande, le département des Alpes-de-Provence est très étendu, vous le savez très bien. Les distances sont grandes, hein. Pour accompagner un enfant, on va avoir 2 heures, 3 heures de route aller-retour pour un temps d'1 heure ou 2 heures d'accompagnement. Et ça, je crois que c'est pas assez pris en considération par nos politiques et par nos politiques et aussi
par les pouvoirs publics
en fin de compte, hein, qui se font tirer l'oreille, hein, au niveau des financements. Alors ça, c'est le CESAD. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi le Loujas. C'est une entreprise adaptée. Alors là, effectivement, c'est un établissement qui fait travailler des adultes. Nous avons là 18 adultes en situation de handicap qui confectionnent des repas. Donc Louja, c'est un établissement qui a une grande cuisine centrale à Saint-Auban et qui confectionne de l'ordre de 1500 repas par jour. Alors ces repas sont fabriqués par des personnes en situation de handicap, sont fabriqués et à partir de 11 heures, certains prennent des véhicules et en liaison chaude vont servir ces repas dans des maisons de retraite, dans des écoles du département.
Donc on voit bien l'utilité de ce type d'action que vous menez.
Et du coup aussi, par notoriété aussi, nous avons été amenés à reprendre la cafétéria d'Arkema. Arkema, à un moment donné, bon, qui malheureusement...
Donc c'est l'usine de Saint-Auban.
Oui, qui malheureusement est en perte d'activité, et ça, nous le regrettons tous, je crois, enfin, surtout les gens qui sont sur place. Donc, le prestataire de l'époque n'a plus voulu, c'était plus assez rentable pour lui, c'était un privé, il a dit, bon, moi, je laisse tomber, quoi. Donc, naturellement, Saint-Auban est venu vers nous, bon, il n'y a pas eu de problème, nous, on a repris l'activité, et donc, la cafétéria fonctionne au même endroit, est ouverte pour tous les salariés, et ouverte, du coup, à tout public. Nous, on a dit, bon, on est là, ok, pour les travailleurs d'Arkema, mais nous souhaitons pouvoir accueillir tout public.
C'est plus Arkema, d'ailleurs, c'est Kémoine.
Oui, mais oui. Enfin, il y a toujours Arkema qui...
Jusqu'à quand, on ne sait pas.
Jusqu'à quand, on ne sait pas. Administrativement, ils existent toujours, en fait, le compte.
Et on en profite pour saluer tous les gens qui se battent pour ce dossier et que nous soutenons, évidemment, ici à Fréquence Mistral. 2014, on va arriver à votre anniversaire, Michel, avec un temps fort aussi, en plus de cette journée du 21 novembre, la charte pour l'accessibilité universelle que vous avez rédigée.
Voilà, cette charte-là, nous avons élaborée sur les 2 dernières années à l'initiative de la Fédération des APAGE. Hein, ça a été mis en œuvre par la Fédération des APAGE. Nous avons eu un certain nombre de réunions, de concertations dans les départements et nous sommes arrivés à écrire une charte universelle. Parce qu'en fin de compte, il ne doit pas y avoir de zone d'ombre pour les personnes en situation de handicap. Il faut en arriver à ce que tout soit accessible pour les personnes qui, quelque part, ont une difficulté, ont une souffrance dans leur corps. On doit les reconnaître en tant que citoyen. Et Donc universel, oui, ça touche tous les domaines et ça va très loin en fin de compte. Parce que quelque part, nous, valides, on est handicapés dans beaucoup de domaines en fin de compte. Hein, en communication ou autre, on a des problèmes. Hein,
Et puis on vieillit aussi,
et
Michel.
On vieillit aussi, effectivement. Et c'est vrai que les personnes âgées...
La vieillesse, part, c'est aussi un problème.
Les personnes âgées bénéficient de nos actions. On le voit au travers des commissions d'accessibilité qui existent à travers le département. J'en profite pour saluer la commission d'accessibilité de Manosque, qui fait un très gros effort, qui s'investit maintenant beaucoup. Il a fallu réagir pendant longtemps pour arriver à ce que ça rentre dans les mentalités. Mais maintenant, je crois que la dynamique est lancée.
Il y a une réelle volonté politique.
Il y a une réelle volonté politique, effectivement, de la commune. Il y a un travail maintenant qui se fait auprès des commerçants. On essaie de sensibiliser les commerces, leur dire que si vous rendez votre local accessible aux personnes de handicap, vous le rendez accessible aux personnes âgées, vous le rendez accessible aux mamans qui sont avec une poussette, avec deux ou trois enfants autour d'eux. Si vous, à l'intérieur de vos locaux, vous ménagez des espaces assez larges, les gens peuvent circuler, peuvent voir les produits que vous vendez, ça intéresse tout le monde. Si en plus, cerise sur le gâteau, vous avez un WC qui est accessible aux personnes en situation de handicap, ça n'en est que mieux et tout le monde en profite. Et là, je lance un peu un appel à tous les restaurateurs, les bars de Manosque qui ont un gros retard de ce côté-là. Certains ne peuvent pas le faire, mais ceux qui le peuvent, ça serait bien qu'ils se mettent en conformité.
Il y a d'ailleurs une cellule de réflexion très poussée à la CCI 04.
Exact, oui, effectivement.
Et qui fait du bon travail en termes d'information de ses ressortissants.
Je tiens à saluer la CCI parce que effectivement, ils ont fait un très très gros effort, ils ont fait des dossiers très pertinents, qu'ils ont communiqué au commerce, et si les commerces n'arrivent pas à se mettre en accessibilité, c'est qu'ils ne veulent pas.
Michel Pomme, juste avant de parler de l'organisation de cette journée du 21 novembre, est-ce que vous avez des besoins et des revendications actuelles, 50 ans après votre naissance?
Oui, c'est vrai que, on peut dire en 50 ans, c'est vrai que ça a explosé la prise en compte de ces gens, mais je crois que quelque part, on est un peu victime de notre succès. Dans le sens qu'on a des listes d'attente maintenant dans tous les établissements. Notre drame actuellement, c'est que vous voyez, un service comme le CESAD, le service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, a une liste d'attente de 50 à 60 enfants. Et certains ne seront jamais pris en charge. C'est pas possible. On n'arrivera pas à épuiser cette charge, cette liste.
La solution, elle est où?
La solution, elle est à ce que l'ARS ait une prise de conscience importante et nous accorde des crédits pour agrandir nos structures, accueillir plus d'enfants. Alors c'est vrai que, alors du coup, pareil à l'IME, l'Institut médico-éducatif, la Durance, aussi a une liste d'attente importante. L'ADPI, à côté, a les mêmes listes d'attente.
La problématique aussi, est partagée. Quoi.
Voilà, elle est partagée. Quand on a 50 CESAD, eux aussi ont 50 CESAD. Hein, on a aussi un institut de polyhandicapés qui est à Montfort, qui accueille 17 jeunes polyhandicapés, mais vraiment très, très lourdement handicapés. Vraiment, quand on dit polyhandicapés, c'est que tout leur corps est en souffrance, leur corps et leur tête. On en a 17, mais on est plein. Il y a des jeunes qu'on ne peut pas accueillir parce que par faute de place. Et la loi, il y a une loi qui existe, qui avait été votée à l'initiative d'un député, monsieur Creton, qui porte son nom, la loi Creton, qui nous dit, mais à partir de 20 ans, si vous n'avez pas de place d'accueil pour les enfants, vous devez les garder. Et effectivement, nous les gardons, que ce soit à Tony Lenné ou à l'IME, nous les gardons. Mais si, tant que nous les gardons, s'il n'y a pas de place à l'extérieur pour eux, ça nous met en capacité de ne moins pouvoir accueillir de jeunes, des nouveaux.
Il faut aussi des personnels qui puissent proposer des activités, voire des formations.
Alors, si
et donc
voulez,
ça, c'est...
Bon, il y a un cri d'alarme que je vais pousser aussi, mais ça, tout le monde là, c'est au niveau de la santé. En fin de compte, quand on voit que notre département, par exemple, en psychiatrie, à Digne, je crois qu'ils ont 4 places de psychiatre, ils n'ont plus qu'un psychiatre. Et donc, ce qui veut dire que si eux n'ont plus de psychiatres, nous, dans nos établissements, on n'a plus de psychiatres non plus, alors qu'il y a un besoin. Je vois à l'ITEP, Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, Là, on aurait besoin d'un psychiatre, mais il n'y en a pas.
Tout cela, Michel, vous allez en parler lors de votre journée particulière, qui est une journée festive, relativement détendue, mais aussi vindicative, le 21 novembre.
Oui, je sais, c'est... on me dit il faut rester soft, il faut rester dans la joie, dans la bonne humeur. Oui, je vais le faire, mais ça, quelque part, je suis indigné quand je vois les lenteurs qu'il y a. La loi, elle est bien, elle a fait des choses de 2005, oui. Il y a des avancées.
Mais ça n'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. On sent des réticences. Hein. Éducation nationale, on nous dit, mais l'éducation nationale fait ce qu'elle peut. Ils ont des moyens limités. Mais si réellement on essayait effectivement de considérer que le travail qui est fait dans nos établissements et l'IME, je veux pas dire, hein, mais les enseignants qu'on a là sont formidables. Hein. Les enseignants, les éducateurs qu'on a là font un travail remarquable. Mais On a un manque de personnel, c'est un manque d'enseignants et c'est regrettable. On nous a encore retiré deux postes d'enseignants en 18 mois, mais ça on ne fait que le regretter parce que franchement, c'est pas voler l'éducation nationale que d'avoir ces enseignants là chez nous. On en a besoin. Nous permet d'alléger les classes au lieu d'on nous dit oh ben vous pouvez travailler avec 15 enfants par classe, mais c'est pas raisonnable avec 15 enfants qui ont des pathologies différentes, des pathologies lourdes. Pathologies qui sont telles qu'on ne peut pas les mettre dans le circuit ordinaire. Ce qu'ils n'ont pas en circuit ordinaire, qu'ils sont chez nous, c'est que vraiment, on a besoin d'un accompagnement important. Et pour nous, avoir 7-8 enfants par classe, avec en plus un éducateur accompagnant l'enseignant, c'est largement, c'est le maximum supportable. Et là, on nous dit, oh, mais avec 15, vous pouvez faire le même travail. C'est pas sérieux.
Vous aviez envoyé à l'époque, en septembre-octobre, un communiqué de presse que nous avions évidemment relayé sur notre antenne,
c'est
car
sûr que notre...
la situation est importante. Vous allez l'évoquer, je pense, avec Éric Lavis, le directeur de l'éducation nationale.
Oui, c'est sûr qu'il prend mal, nos interventions, mais bon, je trouve qu'elles sont fondées.
Vous êtes un petit peu là pour ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Votre anniversaire, c'est donc à la salle des fêtes de Château-Arnoux, vendredi, à partir de 14h jusqu'à 19h, il y a des expositions photos aussi, un spectacle également, et puis une table ronde avec votre président qui sera présent,
le président national, Jean-Louis Garcia, sera présent aussi, effectivement, et bon, c'est très bien, et à ma connaissance, il y aura pas mal de personnalités qui seront présentes, qui feront l'effort de venir, en fin de compte.
J'aurai aussi l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde.
Et vous aurez l'honneur d'animer cette table ronde.
Voilà, donc on essaiera de dire des choses pertinentes, comme j'ai...
Il va falloir les tenir, tous ces gens-là.
Souvent l'habitude, enfin, vous inquiétez pas,
Michel. Vous avez l'habitude de manipuler.
En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'apporter un petit peu de ma chaleur professionnelle aux 50 ans de la page IH.
Je veux dire, là, donc... À 16h30, on a la table ronde. Après, à 17h30, à 18h, on a le passage obligé des discours, effectivement, quoi. Bon, ça va de soi.
C'est normal.
Et je vous fais remarquer que, ensuite, nous avons un spectacle qui est donné par l'association Au nom de la danse. C'est une association du Var, qui est, je crois, Fréjus, en fin de compte, et qui fait évoluer sur scène des valides et des non-valides. En situation de handicap, beaucoup en fauteuil aussi, qui ont monté un spectacle de danse et qui rayonne dans tout le département, dans le Var et même à l'extérieur, si on le demande.
Et donc
c'est une troupe très pertinente qui, pendant 3 quarts d'heure, fait évoluer ces personnes-là et je vous assure que ça vaut le coup d'œil.
On aura le plaisir d'admirer tout ça. C'est donc le 21 novembre à Château-Arnoux-Saint-Auban. Et puis, si on veut les contacts de la page IH, il y a un numéro de téléphone, si jamais. Évidemment, c'est à Château-Arnoux, 04 92 64 44 11. 04 92 64 44 11. Michel Pomme, merci. Bon anniversaire.
Merci de votre accueil. Merci.
À très bientôt, à vendredi. Voilà, c'est la fin du journal. On a un petit peu débordé. Agathe, il faut nous excuser. Demain, nous parlerons de l'UNICEF et de son action à l'occasion de la semaine du droit de l'enfant qui se déroule actuellement à Digne-les-Bains. Et puis demain, je recevrai aussi Jean Darrault à propos des parutions des éditions Parole, les éditions Parole qu'il dirige. Merci Agathe, bonne journée à tous et à demain.
Merci François, à demain.